Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Le titre avant de commencer, un nouveau laboratoire de dégustation du café inauguré mardi à Bukavu par l'Office national du café. Ce centre aux standards internationaux va permettre de réduire le temps d'analyse des échantillons et donner le permis d'exploitation le plus vite que possible aux producteurs du café dans la région. Ceci paraît être une première en RDC. Le COPIREP a organisé mardi à Kinshasa un atelier sur la revue du processus de restructuration de la régie des eaux pour améliorer les performances opérationnelles et financières du secteur de l'eau. Le rapport présenté par le consultant à cet effet stipule que les investissements entre 2006 et 2014 ont été faibles au regard des besoins et prévisions de la régie des eaux, quand bien même il y a eu peu d'amélioration en ce qui concerne les performances techniques de l'entreprise. Dans le secteur bancaire et financier, nous allons revenir sur le nouveau produit de mobile banking lancé officiellement mercredi à Kinshasa par la TMB Pepele Mobile, un moyen de faire toutes les transactions financières via son téléphone portable. Voilà pour les titres. Notre invité de la semaine s'appelle Alain Kaninda. Il est le président du conseil d'administration de l'Association nationale des institutions des microfinances de la RDC. Il est avec nous au studio. Monsieur Alain, bonjour et bienvenue dans ce plateau, dans ce studio de Radio Capi.
Bonjour Monsieur Daniel, merci pour l'invitation.
Panorama économique, le dossier.
Nous allons ouvrir le panorama par ce dossier de la semaine, le résumé de l'actualité économique de la semaine. Dans ce dossier qui part du sud Kivu, un nouveau laboratoire de dégustation du café est inauguré mardi à Bukavu à l'Office national du café. Ce centre aux standards internationaux va permettre de réduire le temps d'analyse des échantillons et de donner le permis d'exploitation le plus vite que possible aux producteurs de café dans la région. Le coût des investissements est de plus de 40 000 dollars américains réalisés à travers le projet Kahawa Bora ya Kivu, qui signifie tout simplement Bon Café du Kivu. Ce projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international en RDC USAID et réalisé en partenariat avec Catholic Relief Service, World Coffee, Caritas Bukavu et Eastern Congo Initiative. Plus de 4500 producteurs de café réunis dans des coopératives de Kaléé, Idui et Kabaré accueillent bien ce projet. Gilbert Makelele est le président de l'Union des coopératives de caféculteurs de la RDC. Il s'exprime au micro de Delphine Amuto.
C'est une unité très très importante. Désormais, ça va permettre au sud Kivu d'exporter les cafés à partir d'ici. Parce qu'une grande quantité produite au niveau du sud Kivu est exportée par le nord Kivu. Effectivement, parce qu'il n'y avait jamais eu un laboratoire. Et maintenant qu'il y a un laboratoire, je crois que c'est un grand ouf de soulagement. Il y a déjà quelques formateurs ici qui viennent d'être formés dans la dégustation. Parce que nous voulons aussi savoir qu'est-ce que nous envoyons en Europe, qu'est-ce que nous envoyons aux États-Unis. Nous devons être à mesure de déguster d'abord nous-mêmes notre café et savoir qu'est-ce que nous envoyons à nos acheteurs. Et nous voulons faire un mariage avec nos acheteurs et donc nous sommes censés produire vraiment les cafés de qualité. La RDC, notre pays, perd autour de 50 millions de dollars par campagne caféière. Mais est-ce que nous devons laisser toute la production aller au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie? Parce que pour votre information, une grande partie bord du lac, ça va au Rwanda et une autre grande partie du café du côté Uvira, Fizi, ça va au Burundi et en Tanzanie. Est-ce que nous devons laisser ça? Nous disons non. C'est ça même la raison d'être de notre plateforme. C'est-à-dire qu'au niveau de notre plateforme, si nous sollicitons un accompagnement par l'autorité, par l'Office national du café, par USAID et par Awa Buffett, comme ils l'ont fait dans d'autres pays, c'est que nous voulons d'abord contrôler la production. Parce que c'est quand la production part frauduleusement que l'État perd l'argent.
Autre dossier de la semaine, transformation des entreprises du portefeuille de l'État. C'est dans ce cadre que le COPIREP a organisé un atelier sur la revue du processus de restructuration de la régie des eaux. Objectif visé, améliorer les performances opérationnelles et financières du secteur de l'eau. Le rapport présenté par le consultant a renseigné d'un côté que les investissements entre 2006 et 2014 ont été faibles au regard des besoins et des prévisions de la régie des eaux et de l'autre, il y a eu peu d'amélioration en ce qui concerne les performances techniques de l'entreprise. En réaction, le syndicat des travailleurs de la régie des eaux estime que les financements apportés par les bailleurs de fonds ne suffiront pas. il est nécessaire que l'État témoigne de sa volonté et de son leadership par notamment le paiement régulier des factures de consommation d'eau des instances officielles. Je vous propose plutôt cette déclaration de Jean Bosco Mwaka, le secrétaire général du SINATREJ, le syndicat national des travailleurs de la régie des eaux, interrogé ici par Justine Moussa Mpondé.
C'est depuis 2008 que nous avions dit que la réforme de la régie des eaux, sans implication de l'État, sans paiement des instances officielles, c'est-à-dire les administrations, la réforme de la régie des eaux serait un leurre. C'est pratiquement la même conclusion que nous venons d'avoir avec les consultants. Les consultants constatent qu'il y a absence de volonté de la réforme de la part d'abord de l'État et du côté de la régie des eaux, bien qu'il y a certains indicateurs qui ont évolué, il y a d'autres indicateurs qui n'ont pas évolué. Certes, il y a un sérieux problème. Imaginez-vous qu'à la date d'aujourd'hui, de janvier 2012 à ce jour, l'État congolais doit à la régie des eaux 78 millions de dollars de dettes consommation eau acceptées par l'État, sans compter 17 millions de factures rejetées. Rejetées pourquoi ? Parce que certains utilisateurs consommateurs d'eau, ils ont cassé les compteurs. Et quand on envoie une facture au forfait, l'État ne veut pas approuver ce qui fait cette facture. 78 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on venait de projeter les besoins d'investissement de la régie des eaux pour de l'ordre de 1 milliard 300 millions. C'est dans 10 ans. Donc chaque année, on a besoin de 130 millions de dollars. Or, l'État, à lui seul, détient déjà cette enveloppe. En dehors de l'État, il y a aussi la prolongation de l'État. Vous avez les entités décentralisées, les gouvernorats, les mairies, les communes ne payent pas l'eau. En dehors de ça, vous avez certaines autorités politico-militaires qui estiment qu'on avait oublié leur nom sur la liste des ayants droit, ne payent pas de l'eau. Il y a aussi des entreprises parastatales qui ne payent pas, que nous n'avons pas la possibilité d'aller couper directement parce que quand vous coupez, il y a des agents qui sont soit arrêtés. Donc tout ça, il y a un problème. Donc il faut que l'État s'implique dans ce secteur, sinon cet échec risquerait de continuer jusqu'à la fin.
Troisième dernier dossier de la semaine, retrouvons Nadine Fulatimba qui nous parle de nouveaux produits de mobile banking, PPL Mobile, que la banque TMB a lancé officiellement ce mercredi à Kinshasa. C'est un moyen qui permet de faire toutes les transactions financières via son téléphone ou encore sur tout autre canal numérique. Nadine Fulatimba.
PPL Mobile, tel que dénommé par la TMB, est une opération qui permet d'effectuer plusieurs transactions bancaires à partir de son téléphone. Parmi les services offerts par la banque, on peut citer notamment les dépôts et les retraits d'argent, la recharge des cartes prépayées, les paiements de biens et services, des factures et même les paiements des salaires. Selon la TMB, au travers de ce produit, plusieurs objectifs sont visés, à savoir développer un nouveau canal des avoirs des transactions et des gestions à distance des avoirs financiers, capitaliser sur le taux de ponctuation mobile qui s'élève à ces jours à 48%. Les directeurs régionaux de la TMB nous ont dit plus sur le fonctionnement des PPL Mobile. Yannick Mbia.
Rapidité, plus de nécessité de venir physiquement à la banque. Accessibilité, le téléphone portable. L'innovation, la simplicité, donc aussi bien sur le canal SMS. Et enfin, la sécurité. Forcément, en tant que banque, il est important d'assurer chacun des clients que chacune de leurs transactions demeure sécure.
Présent à la cérémonie, Déogratias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale, a encouragé les banques à se réinventer par la mise sur le marché de nouveaux produits bancaires afin d'augmenter le taux de bancarisation en RDC.
L'innovation, c'est ce fait-là d'allier à tout moment et ça nous permet d'obtenir le progrès comme c'est le cas aujourd'hui, de faciliter l'inclusion de millions de personnes dans l'économie moderne et va aussi permettre d'opérer un rattrapage sur plusieurs réformes en cours non encore achevées, comme la bancarisation de la paix dans les territoires non pourvus de banques. Demain, le fonctionnaire qui se retrouve dans le village où il n'y a pas de banque sera informé en temps réel du versement de son salaire dans son compte et il pourra disponibiliser de son salaire à partir du téléphone parce qu'il a son compte dans le téléphone.
Notez que ces services s'effectuent en 6 langues, à savoir le français, l'anglais, le swahili, le chiluba, kikongo et le lingala.
Merci beaucoup Nadine Foulaye. C'est le moment de retrouver dans ce studio notre invité, je vous l'ai annoncé, Alain Kaninda. Il est le président du conseil d'administration de l'Association nationale des institutions de microfinance de la RDC. Monsieur Alain, nous allons commencer par parler de l'association, l'ANIMEF, dont vous êtes le président du conseil d'administration. Si vous pouvez nous présenter en plus bref cette association, qui est membre de l'ANIMEF, comment faire pour devenir membre, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette association?
Merci beaucoup pour la parole, Monsieur Daniel, et encore une fois, merci pour l'invitation. De manière simple et résumée, l'ANIMEF est l'Association nationale des institutions de microfinance. Donc, c'est en fait une institution, c'est une association qui regroupe toutes les institutions de microfinance opérationnelles en RDC, mais qui ont été agréées par la Banque centrale du Congo.
Il y en a au moins combien ?
Nous en avons 21 qui sont opérationnelles et qui sont actives, et avec une répartition plus ou moins équilibrée dans tout le pays. Et voilà, donc à ce jour, on compte effectivement 21 institutions de microfinance qui sont agréées par la Banque centrale du Congo.
Donc la condition pour faire partie de l'ANIMEF, c'est obtenir son agrément de la Banque centrale du Congo.
Non, absolument. Donc il faut faire, on peut faire une demande, mais en réalité, la principale condition, c'est celle d'être effectivement une institution qui soit agréée par la Banque centrale du Congo.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme activité? Qu'est-ce que vous menez comme activité?
Ce qu'il est important de noter, c'est que c'est une association professionnelle. Donc, c'est une corporation qui regroupe toutes les institutions qui sont opérationnelles et effectives dans le secteur de la microfinance, mais dans la catégorie des institutions de microfinance. Parce qu'il y a une distinction à faire, parce qu'au niveau des acteurs opérationnels dans le secteur de la microfinance, quand je parle d'opérateurs, je parle d'institutions financières non bancaires. C'est un peu ça la catégorie, la caractéristique de nos institutions, mais qui offrent des services financiers à la population. Et les institutions de microfinance sont celles qui travaillent, à la différence des coopératives d'épargne et de crédit.
Justement, c'est la question que j'allais poser. Souvent, on parle de coopératives de crédit et d'épargne. À côté, on parle des institutions de microfinance, mais on dit que toutes ces institutions-là offrent de crédits qui sont de petite taille. Et à quel seuil on peut départager les deux, les coopératives d'épargne et de crédit et les institutions de microfinance, justement?
Oui, effectivement, vous avez bien expliqué la notion de tous les acteurs de la microfinance, parce que la microfinance doit être prise dans sa globalité. L'idée de départ, l'idée de base, c'est toutes les institutions qui ont pour vocation d'offrir des services financiers ou microfinanciers à des populations qui sont exclues du système bancaire classique. Ça, c'est la définition de base. Et effectivement, à partir de ces institutions, l'idée, c'est de pouvoir soutenir les populations qui sont les plus vulnérables. En termes opérationnels, la distinction qu'on fait entre les institutions de microfinance et les coopératives, c'est plus simplement sur la partie organisationnelle, dans la manière dont on veut offrir les services. Pour simplifier, les institutions de microfinance fonctionnent en tant que société. Ce sont des actionnaires qui se mettent ensemble, qui décident de constituer une société, quelle que soit la forme, et qui offrent leurs services. Par contre, les coopératives, elles ont une vocation beaucoup plus mutualiste. Donc, ce sont des coopérateurs qui se mettent ensemble pour s'offrir des services entre eux et qui sont gérés selon des mécanismes d'une coopérative.
Les institutions de microfinance bénéficient aussi des appuis techniques et financiers des partenaires.
Non, absolument, absolument. Donc, notre mission de base, c'est d'offrir des services aux populations vulnérables, exclues du système bancaire classique. On peut bénéficier d'un accompagnement, d'un appui, comme on le fait même à travers notre association, des partenaires au développement technique ou financier.
Ce qui nous a plus intéressé à vous appeler dans ce studio, M. Alain Kaninda, c'est l'atelier de professionnalisation des institutions de microfinance que vous aviez organisé la semaine passée. On n'a pas eu le temps, mais en tout cas, on voulait vraiment en parler aujourd'hui, mais on n'en parle pas tout de suite. Le temps de prendre la suite de notre émission Le Panorama économique, et je reviens à vous cette fois-là pour parler de cet atelier sur la professionnalisation des institutions de microfinance.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa,
Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, l'Institut national de sécurité sociale Kasaï Oriental a débuté lundi le versement aux retraités et veuves des retraités et les prestations sociales pour le second trimestre 2015. L'opération est supervisée par le sous-directeur technique de l'INSS chargé des prestations sociales, M. Louhaka Jean, a annoncé par la même occasion la bancarisation de la paye des personnes du troisième âge grâce à des comptes prestations sociales. Le bien fondé de cette opération, selon lui, serait de préserver les bénéficiaires de tout risque lié à l'ancien système de paiement. En province orientale, le président de la Fédération des entreprises du Congo, section Arou, a déclaré que les opérateurs économiques locaux éprouvent des difficultés pour importer les marchandises, notamment des produits de première nécessité qui deviennent rares sur le marché local. Robert Amassi a déploré également la majoration des frais de visa qui est passé de 50 à 100 dollars américains. Il demande l'intervention des autorités compétentes pour régler ces litiges frontaliers et de mettre fin à ces difficultés. L'administrateur du territoire de Arou, de son côté, a signalé également la diminution des recettes de l'État au poste douanier de Arou suite à cette fermeture de frontières. Ouverture mercredi à Kinshasa de la table ronde pour le pool Malibo. Cette table ronde procède du partenariat entre l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARSA, un projet financé par la Banque mondiale. Pendant 3 jours, les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les organisations paysannes qui constituent les exploitants effectifs du pool Malibo ainsi que les opérateurs économiques réfléchissent sur la problématique de la spoliation et sécurisation des sites agricoles du pool Malibo, l'accès au crédit et intrants agricoles de qualité. Ainsi dit, nous allons retrouver pour la deuxième partie notre invité Alain Kaninda qui est avec nous dans ce studio. Je l'ai annoncé avant de prendre cette partie de l'émission, Monsieur Alain. Et pour tous ceux qui viennent de nous capter, vous écoutez Panorama économique sur Radio Capi, sur la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Et notre invité de la semaine, nous l'avons dit, Alain Kaninda, président du conseil d'administration de l'Association nationale des institutions de microfinance. Et maintenant, c'est le moment, Alain, de parler de cet atelier sur la professionnalisation des institutions de microfinance. Quelles ont été les motivations de cet atelier et à quel résultat, à quelle résolution vous êtes parvenu?
Merci pour la parole, Daniel. En réalité, cet atelier a été organisé avec un objectif très clair que les institutions de microfinance se sont fixées. C'est celle de pouvoir arriver à un niveau de professionnalisation qui corresponde aux normes internationales et de manière à pouvoir être à même de mobiliser suffisamment de fonds pour servir la population. Je crois que c'est un peu ça le principal objectif que nous nous sommes fixés. Et à travers cet atelier, nous avons échangé sur plusieurs sujets qui concernaient des institutions, de manière à trouver quels sont les axes sur lesquels nous devons travailler pour nous rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus professionnels.
Et les axes, vous les avez dénichés?
Oui, je crois que principalement ceux qui touchent les institutions pour pouvoir atteindre le niveau de professionnalisation, c'est d'améliorer d'abord leur qualité de gouvernance et avoir des dirigeants qui aient une vision de ce qu'elles veulent faire de leurs institutions et de à quel niveau elles veulent arriver sur les années à venir. Parce que c'est seulement de cette manière-là qu'elles pourront être à même de pouvoir porter leurs activités et pouvoir les développer à travers tout le pays.
À l'ouverture de cet atelier dans les différents discours, je ne sais pas si c'était vous qui l'avez dit ou c'était le gouverneur de la Banque centrale qui était là, j'avais retenu une phrase: il y a une surliquidité sur le marché congolais,
mais les institutions de microfinance s'y passent sur le marché congolais, mais il y a une surliquidité financière qui existe, mais les institutions de microfinance de la RDC n'y accèdent pas assez. J'avais retenu cette phrase-là lors de cet atelier-là. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Comment devenir plus performant et consommer ces liquidités qui sont sur le marché financier?
Oui, peut-être pour préciser cette pensée, lorsqu'on parle de surliquidité, cela avait fait penser, en pensant essentiellement à deux aspects. Premièrement, même je pense qu'au niveau du gouverneur, la Banque centrale l'a mentionné dans différentes interventions, au niveau de certaines banques locales, on peut constater qu'il y a des liquidités qui existent mais qui ne sont pas nécessairement consommées. Mais la problématique de base, c'est celle de dire les gens n'arrivent pas à accéder à ces financements parce que, de manière générale, soit les porteurs de projets, soit les petites et moyennes entreprises ou même les institutions professionnelles n'ont pas de projet qui soit suffisamment bancable pour pouvoir y accéder. Donc la problématique qui se pose aujourd'hui, à part au niveau des banques commerciales qui sont opérationnelles, mais il y a également un certain nombre d'institutions locales, internationales, qui mettent des fonds à disposition pour financer les institutions de microfinance.
On a la SFI, par exemple.
La SFI existe. Je pense qu'au niveau du PNUD, il y a des fonds qui sont mis à disposition pour pouvoir donner accès aux institutions financières telles que les nôtres pour pouvoir refinancer les personnes qui ont besoin de développer des petits projets, même au niveau international. Donc, vous vous rendez compte que les prestataires de services, les institutions de microfinance, ont des fonds qui existent, mais elles ne le savent pas y accéder. Et le passage pour y arriver, c'est effectivement avoir des institutions qui soient professionnelles pour pouvoir y arriver de manière effective et pratique.
Et vous avez exploré toutes ces pistes. Et donc, je pense que la grande difficulté aussi au niveau des institutions, c'est que le SFI, la SFI met des fonds à disposition. Vous avez parlé de PNUD et ces fonds. Si déjà au niveau des institutions de microfinance, vous n'arrivez pas à consommer ces fonds-là, c'est qu'il y a un problème et je pense que vous avez pu réfléchir par rapport à cela.
Oui, alors de manière précise, je pense que le discours d'introduction du gouverneur de la Banque centrale résumait en réalité
les difficultés
et les champs que nous devons exploiter pour travailler. Et je crois qu'il a résumé sur 3 ou 4 éléments importants, qui sont connus d'ailleurs des institutions de microfinance. C'est d'abord améliorer la gouvernance, avoir une capacité d'avoir un reporting financier et des états financiers qui soient fiables, mais permettre également aux institutions financières d'être capables de développer leurs plans d'action et de travail, mais également pouvoir avoir une capacité de service qui soit professionnelle pour pouvoir servir les populations de base. Ce sont des choses qui sont connues même au niveau des institutions de microfinance, mais nous, ce que nous avons voulu faire, c'est en réalité, à travers cet atelier, parler de toutes ces problématiques qui sont connues, mais surtout aussi engager les institutions à entrer dans une démarche où elles s'engagent effectivement à améliorer leur fonctionnement à travers une charte que nous avons signée pour nous engager vers la professionnalisation.
Après cet atelier, sur quoi la suite? Puisque l'ANIMF ne va pas s'arrêter aujourd'hui, demain. C'est une association qui vivra encore longtemps dans les calendriers. Qu'est-ce que vous avez encore prévu pour essayer d'évaluer les résultats des résolutions que vous avez pu avoir au cours de cet atelier?
Dans les 3 mois à venir, je pense que nous aurons un autre rendez-vous où nous allons présenter la charte, qui est en fait l'élément moteur de base qui fédérera les institutions de microfinance, mais qui sera également une charte d'engagement avec les différents partenaires, notamment les institutions qui sont capables d'apporter des fonds aux institutions de microfinance. Donc il y a un travail qui est fait pour que dans les 3 mois, cette charte-là soit présentée et soit signée par toutes les parties prenantes. En dehors des institutions de microfinance, nous aurons également à avoir un engagement à la fois de la Banque centrale, mais également les autres partenaires au développement pour accompagner les institutions de microfinance.
Il ne nous restera plus qu'à vous dire merci beaucoup, Monsieur Alain Kaninda. Moi, que vous ayez un dernier mot, puisque vous passez sur Radio Okapi, un mot peut-être à l'endroit des institutions membres de l'ANMF qui vous écoutent, ou sinon on peut s'arrêter là.
Non, le seul mot, c'est plutôt à l'endroit de l'ensemble de la population congolaise. C'est de dire que la microfinance est un secteur qui est déterminant pour le développement de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle. Nous avons un taux de bancarisation qui se limite à 10%, et 90% de la population qui reste pour pouvoir être inclus financièrement et pouvoir financer leurs projets. Je pense qu'aujourd'hui, à très court terme, c'est via la microfinance.
Mais je pense que cette semaine, j'ai quand même enregistré quelques plaintes de la population parce qu'ils écoutent Radio Capi, ils écoutent nos magazines économiques. Nous parlons des institutions de microfinance, nous parlons des coopératives d'épargne et de crédit, mais cette plainte se résume dans le sens que lorsque ces petites et moyennes entreprises, ces gens qui sont exclus du système financier classique, quand ils viennent vers les institutions de microfinance, c'est aussi difficile que dans les banques classiques.
Ça dépend à quel niveau. Là, vous devez le préciser. Mm-hmm. Mais s'il y a un endroit où les gens peuvent trouver un financement, je ne dirais pas facile, mais un financement qui soit accessible à partir des petits projets. Là, je pense aux gens qui sont dans le secteur informel, les gens qui sont des petits entrepreneurs, les jeunes, et je dirais même les chercheurs d'emploi qui ont développé leur propre activité, petite activité, doivent aller vers les institutions de microfinance qui sont reconnues par la Banque Centrale du Congo. Et là, ils pourront trouver des services de qualité et accéder au crédit.
Je me dis, est-ce que dans vos activités, dans vos calendriers d'activité, vous avez prévu une sorte de sensibilisation aussi à l'emploi de vos clients, comment ils peuvent monter un projet bancable? Je ne sais pas si vous avez une branche d'éducation dans ce sens-là de sensibilisation dans les institutions de microfinance.
Non, effectivement, au niveau de l'association elle-même, elle va lancer un certain nombre d'activités de vulgarisation de masse pour pouvoir expliquer ce que nous faisons, faire comprendre comment nous travaillons, comment nous offrons des services, mais qui seront plutôt adressés à l'endroit de toute la population de manière tous azimuts.
Alain Kaninda, président du conseil d'administration de l'Association nationale des institutions de microfinance de la RDC. Voilà, c'était lui l'invité de Panorama économique cette semaine. Monsieur Alain, merci de tout cœur et nous espérons vous retrouver prochainement dans ce studio pour parler des microfinances.
Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Rendez-vous est pris et nous sommes impatients parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce secteur. En tout cas, merci pour cette première invitation.
Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.